Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup, l'émission dédiée aux startups. Aujourd'hui, je reçois Minley, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de PK Vitality. Et nous allons parler justement aujourd'hui de votre produit phare que vous allez nous présenter, que vous avez même amené avec vous en studio. Une montre pour les diabétiques. Alors avant ça, je vais vous demander de nous présenter déjà l'entreprise française qu'est PK Vitality.
Alors, PK Vitality, on est effectivement une entreprise française d'une quarantaine de salariés. On développe un moniteur de glycémie en continu sous la forme, je vais prendre le produit, sous la forme d'une smartwatch et au dos un patch. Donc c'est la smartwatch a grosso modo les fonctionnalités d'une smartwatch traditionnelle. Ça donne l'heure, on me demande souvent si ça donne l'heure, c'est des alarmes, c'est qu'on peut être connecté à un smartphone. Ça a fait le suivi des activités physiques, les pas, le rythme cardiaque.
Oui, ce qu'on a l'habitude.
L'habitude d'avoir, parce qu'on n'a qu'un seul poignet, on va pas avoir. on a deux poignets, mais on va pas avoir 12 montres. Et puis, le patch, lui, vient avec des micro-pointes.
Votre innovation.
C'est notre innovation. Il est adhésivé au poignet. Et c'est ça qui permet de mesurer la glycémie. Et il y a une connexion physique entre la montre et le patch.
Donc ça, pareil, on en parlera plus tard, c'est votre technologie, c'est vous qui l'avez développée de A à Z. C'est un projet qui a démarré en 2016.
Exactement, donc en 2016, on a lancé le projet, on a monté un démonstrateur pour expliciter le concept qu'on a dévoilé au Consumer Electronics Show à Las Vegas. Et là, on a vu qu'il y avait un vrai market fit. On a eu, je pense, plus de 1000 personnes qui nous ont laissé leur carte de visite sur le site, beaucoup plus qui sont passées. Donc, j'avais l'impression d'être la personne sur le stand Microsoft à pitcher 20-25 personnes en même temps, parce que c'était vraiment ça. C'était dingue. Donc, on avait des gens de l'écosystème, on avait aussi beaucoup de patients diabétiques du CIS qui venaient. Et on a eu 3 awards, ce qui nous a, dont un best-of. Ça faisait 5 ans qu'il n'y a pas eu une société française en 2017 qui avait eu un best-of. Et ça a fait démarrer le projet parce que Les sociétés qui font du monitoring de glycémie en continu, ceux qui essaient des startups, sont plutôt quasiment toutes aux États-Unis. Et donc, quand on est en France, il y a un devoir de lever les bras, de faire coucou pour que des partenaires technologiques, universitaires, de recherche viennent à vous.
On va parler du marché, justement, quelques chiffres. Hein. Le diabète affecte plus de 537 millions de personnes dans le monde. C'est presque une personne sur 10. C'est énorme, c'est dramatique. Ça ne fait qu'augmenter chaque année. La part de ces personnes atteintes augmente chaque année. Hein. Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que l'année prochaine, ou dans quelques années, on atteindra presque... Vous me disiez, j'ai plus les chiffres, mais...
C'est 537 millions aujourd'hui, l'OMS, la Fédération internationale du diabète estime qu'il y aura plus de 800 millions de patients diabétiques en 2040.
2040, voilà.
Voilà, c'est considéré par l'OMS comme une épidémie, c'est l'épidémie du 21e siècle qui pèse sur les patients. Il y a malheureusement un diabétique qui meurt, une personne qui meurt du diabète toutes les 5 secondes. Dans le monde, et ça pèse sur les systèmes de santé, puisque le coût du diabète aujourd'hui, c'est 9000 milliards d'euros, alors ça fait beaucoup de zéros, du mal à se rendre compte, mais ça va peser de plus en plus sur les systèmes de santé, et c'est un vrai problème pour les pays développés, et également pour les pays moins développés, puisque c'est là que l'épidémie progresse le plus.
Bien sûr, parce que, alors, on pense tout de suite, quand on dit diabète de type 2, on pense tout de suite aux États-Unis, avec tout ce qui est, tous les produits industriels qui sont très riches en sucre, mais le diabète touche également l'Inde et la Chine, hein, les 3 pays avec le plus de diabétiques, bon, évidemment, c'est en termes de population, mais ça existe aussi dans les pays, en développement, ou donc l'Inde, la Chine. Et justement, alors votre solution permettrait donc aux diabétiques de mesurer leur taux de glucose à tout moment de la journée.
Ouais, ce qu'on va apporter sur le marché de la mesure de glycémie, alors il existe des produits qui mesurent le taux de glucose en continu. Il y a trois sociétés qui se partagent le marché, trois grosses sociétés, pour les nommer, c'est Abbott qui est numéro 1, après 4 millions d'utilisateurs, qui est extrêmement dominant en Europe, Dexcom et Medtronic. C'était une vraie révolution parce qu'avant il fallait se piquer le doigt avec la goutte de sang, la bandelette, tout le monde, c'était plutôt fiable mais tout le monde détestait ça donc le faisait pas très très bien. Le monitoring de glycémie en continu, ça a été une vraie révolution pour les patients qui pourtant continuent à se plaindre d'un certain nombre de problèmes liés au dispositif et que nous résolvons. Alors nous résolvons d'abord d'avoir plus de douleur.
Que j'allais dire, ça fait mal de se piquer en fait.
Alors, ça fait mal de se piquer tous les jours, mais même quand vous avez un patch en haut du bras, l'insertion, c'est quand même une aiguille qui fait de 6 à 11 mm. Ouais. Les gens n'aiment pas du tout ça. Ça leur rappelle le moment où ils continuent à se piquer le doigt. Donc ça, c'est la première plainte. La deuxième plainte, c'est en fait un adhésif qui est soit trop fort, parce que c'est quand même une performance qu'il y ait quelque chose qui tienne en haut du bras pendant 10 à 14 jours et que ça se décolle pas malgré la sueur, les douches, un bain, des chocs, etc. Donc, pour un certain nombre de patients, c'est trop, ça colle trop, et donc il y a des irritations, ou ça colle pas assez, on est obligé de remettre un adhésif par-dessus. Nous, pour la partie douleur, il n'y a pas de douleur parce qu'on a des micro-points, donc on ne sent rien. Pour la partie adhésif, on a un adhésif qui est très doux, en fait, c'est à base de silicone, qui donc pas irritant, qui normalement colle moins, mais comme en fait la montre protège le patch et applique une pression verticale, ouais. C'est comme si vous recolliez votre patch
en continu. En fait, ouais.
Voilà. Donc ça c'est les deux premières innovations, les deux premières choses qu'on apporte pour les patients. La troisième c'est la discrétion. Ça veut dire que quand vous avez un patch en haut du bras, c'est je suis patient diabétique. Ce que détestent les patients, ouais. Surtout les patients de type 2, donc c'est ceux qui ont eu le diabète pour des causes alimentaires ou de mauvaise activité physique, c'est ceux qui refusent en général leurs conditions, plus que les diabétiques de type 1 qui l'ont plus jeune, et donc ils ne veulent pas être marqués comme patients diabétiques. Or, là, ce que vous voyez, c'est la montre.
C'est très discret, en fait.
C'est très discret, en fait. On voit une smartwatch au poignet, on ne voit pas le patch qui est au dos. Donc le patch est, lui, invisible. Et puis la façon aussi de vérifier sa glycémie, c'est simplement, je regarde ma montre. Et si vous ne regardez pas votre montre, parce que vous êtes au bureau avec votre chef et que vous n'osez pas penser que la réunion est un petit peu longue, vous tombez en hypoglycémie, ce qui peut arriver, vous avez une alerte simple au poignet.
D'accord, une petite notification qui
vibre, vous regardez, okay. Vous êtes en hypoglycémie, il est temps de se resucrer. Et le dernier point, puisqu'on parlait de la Chine et de l'Inde, et des pays en voie de des pays qui ont des systèmes de santé où ça rembourse moins, on est aussi un produit qui est beaucoup moins cher à fabriquer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'applicateur. Les patchs des moniteurs de glycémie commerciaux ont un gros applicateur qu'on jette à chaque utilisation et ont beaucoup d'électronique dans le patch. Ils ont une batterie, c'est un dispositif qui est autonome. Donc il y a une batterie, un chipset pour analyser le signal, de la mémoire, du Bluetooth, tout ça c'est acheté et jeté. Je ne vous parle pas des problèmes écologiques. Et donc, ça pèse sur le coût de fabrication et ça ne permet pas de faire des produits qui soient très accessibles pour la majorité des patients.
Et alors, justement, on parle donc de ces différents critères que vous proposez aux personnes atteintes du diabète. Vous venez de dévoiler les résultats de votre première étude clinique sur l'homme. Donc, vous l'avez fait lors du 15e salon de l'ATTD. Alors, comment s'est déroulée cette étude qui a été testée sur des êtres humains? Comment ça s'est déroulé? Combien de temps ça a pris? Et justement, vous allez nous parler des résultats.
Alors c'est dans l'industrie des dispositifs médicaux ou des médicaments medtech biotech, les étapes d'essais cliniques sont critiques,
très réglementées
en création de valeur, en dérisquage de la société. Pour vous donner un exemple, donc on a commencé en 2016 à travailler, on a d'abord travailler très longtemps ce qu'on appelle en in vitro, ça veut dire dans des solutions où on injecte du glucose, on regarde ce qui se passe, on fait de la chimie, etc. Et puis tout d'un coup, on passe dans on passe dans l'animal, puis on passe dans l'humain, ça se passe tout d'un coup beaucoup moins bien. Hein. C'est parce que finalement
oui, le switch est
fort parce que une solution, c'est tous les jours la même chose. Le corps humain, ça bouge.
Ça change, ouais.
Et donc on a travaillé pendant de 2017 à 2019 en in vitro, puis de 2019-2020 sur des modèles se rapprochant de l'humain, et on a fait effectivement fin 2021 nos premiers essais cliniques. Alors on les a fait aux États-Unis pour dire, parce que c'est plus cher, mais c'est plus rapide. C'est en Europe, c'est assez long d'avoir les autorisations, donc c'est une question de gain de temps, et le temps, c'est de l'argent. Et ça se fait dans un cadre. En fait, on a 35 patients qui vont tester notre solution de fin 2021 à la fin 2022, et on les prend par bloc de 5. Et donc ça nous permet de faire un peu de lean development, donc on fait des tests sur des petites cohortes et on améliore le dispositif au fur et à mesure en apprenant
avec les retours. D'accord. Donc très intéressant. Donc là, vous venez de dévoiler les résultats, donc prometteur. Comment vous l'avez financé? Quel est le business model? Quel est votre business model? Et comment est-ce que, avant de sortir le produit, ça se finance tout ça? Comment ça s'est passé du coup?
Alors comment ça se passe, puisque c'est on sera sur le marché, l'objectif d'être sur le marché en 2024, en attendant pas de revenus. Donc c'est effectivement des levées de fonds, donc du dilutif ou du non dilutif. Donc aujourd'hui on a été financé à hauteur de 18 millions d'euros, deux tiers en actions, soit par des business angels, soit par il y a eu un industriel, Beurer, qui est un industriel allemand qui est dans la glycémie capillaire, donc, je me pique le doigt, qui nous a accompagnés depuis 2019, par l'Europe à travers H2020 EIC Accelerator, qui est d'un côté action et subvention. Mm-hmm. Et puis côté subvention, donc il y a l'Europe, la BPI, la région sur un certain nombre de projets.
Et du coup, alors vous avez lancé une collecte sur une plateforme, du crowdfunding, du financement participatif. Comment ça s'est mis en place?
On a essayé de choisir la meilleure plateforme en France, qui est la plateforme WeSeed. Donc ça s'écrit WISEED. Donc vous pouvez aller sur la plateforme WeSeed et puis voir notre projet et éventuellement y participer. Ça nous permet de toucher des gens qui, en direct, on ne peut pas, parce qu'on a des tickets, nous, en tant que société, on peut pas prendre des petits tickets, on n'est pas dimensionné pour, c'est beaucoup un actionnaire, c'est beaucoup de paperasse, en fait.
Oui.
Une plateforme participative, ça permet de diminuer le coût d'entrée, parce que ça permet à partir de 100 euros, hein,
oui.
on peut rentrer dans le capital d'une société. J'imagine bien 18 millions à coût de 100 euros, c'est compliqué à gérer.
Voilà, vous visez 1,5 million, c'est ça?
Là, on vise 1,5 million. Donc ça, voilà, ça permet aussi de faire participer des gens qui n'auraient pas participé à l'aventure. Et puis nous, ça nous permet de récupérer de l'argent pour pouvoir négocier la série B qui est en cours de façon plus tranquille et d'avoir des meilleurs termes à la fin.
Donc c'est sous forme d'obligations convertibles. Et alors vous promettez un rendement annuel de 10% sur 18 mois, c'est ça?
C'est cela. Donc il y a 10% de rendement. Donc ça, c'est ce qu'on a négocié avec la plateforme WeSeed, ce qui est plutôt un assez bon taux. Vu les taux d'intérêt.
C'est un très bon taux de nos jours. Et alors, ça en est où, là, au niveau de la participation?
À l'heure actuelle, alors je n'ai pas vérifié depuis le début de la semaine, on était à 350 000 euros de collectés en à peu près 3 semaines.
D'accord, donc c'est le moment d'investir si on veut participer. Alors, on va parler aussi de quelque chose d'important. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une technologie innovante. Vous créez ce produit, vous le lancez. On va parler de la fabrication, mais avant, on va parler des brevets, parce que vous en avez déjà déposé 39. C'est gigantesque, enfin c'est énorme. Comment ça se passe? Vous créez quelque chose à chaque fois qu'il y a une petite technologie que vous inventez, ça y est, vous la brevetez?
Alors oui, c'est ça, en fait.
Vous êtes obligé de le faire.
Alors, hein. on est poussé par l'industrie à le faire, c'est-à-dire que
vous avez vous deux... sinon.
Voilà, donc il y a des choses, en fait, qu'on ne dépose pas, puisqu'on va dire que c'est du savoir-faire. Il y a beaucoup de choses, par exemple, en chimie, qu'on ne brevette pas, parce que soit ce n'est pas brevetable, soit parce que c'est mieux quand c'est gardé secret, parce qu'à partir du moment où vous donnez le début de la solution, on peut aussi contourner.
Bien
quand
sûr.
Vous ne savez pas où chercher, dans la meule de foin, c'est plus compliqué.
C'est difficile.
Par contre, effectivement, tout ce qui est... on a beaucoup de brevets. On a essayé de breveter le combo montre plus patch avec des micro-pointes parce que c'est là où on est très différenciant.
Mais c'est votre évolution.
Voilà. Et je prends un exemple. Juste entre la montre et le patch, ici, là, quand ça se met au dos, il y a une dizaine de brevets.
10 brevets donc pour le fait d'emboîter le patch dans la
montre. Que ça reste en place.
Enfin, tout ce qui va avec derrière, mais
l'activité électrique.
L'action, en tout cas, c'est 10 brevets.
On a aussi un certain nombre de brevets par rapport à l'irritation. Parce qu'il y a des gens qui nous disent bah ouais, les micro-pointes au poignet, toujours au même endroit, ça va finir comme en charpie. Il y avait des gens il y a 3 ans qui nous disaient que ce ne serait pas possible. On leur a démontré le contraire, hein. Mais on a un brevet, par exemple, c'est la rotation des micro-pointes. Donc en fait, vous achetez les patchs par 4, donc 4 fois, c'est 7 jours un patch, donc pour 28 jours. Et le patch numéro 1, il va avoir les micro-pointes en nord-est, le patch numéro 2 en nord-ouest, etc. Et
ça, c'est donc chaque semaine, ça change.
Chaque semaine, ça change. Donc on a les micro-pointes au même endroit pendant 7 jours. Ça s'enlève, il y a des petits trous, parce que c'est comme ça qu'on mesure, c'est juste soit sur la peau, on sent rien, mais c'est comme ça qu'on a cette réaction chimique. Et puis pendant 21 jours, la peau se repose. Alors là, c'est peau de bébé, hein, pas sans souci.
On peut changer, j'imagine, la montre de main si jamais on veut.
On peut, mais c'est en général ce que... Alors c'est en général, les gens de la MedTech nous disent « Ah, bah, vous avez qu'à changer de main ». Mais nous, on vient aussi de l'électronique grand public et on dit « Mais vous pensez que chez Garmin et Apple,
oui,
ils disent « Changer de poignet si ça ne se passe pas bien ». Non, ça se fait pas. C'est la solution de backup, parce que ça peut arriver hein, à un moment qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Et ce sera ce qu'on conseillera à l'utilisateur, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire au quotidien.
Donc, un brevet toutes les 6 semaines, vous me disiez, hors antenne, déposé.
C'est cela. Donc, beaucoup. Alors, ça montre la complexité du projet. Tous les écueils qu'on a su surmonter. Et donc, effectivement, un problème, une solution, pas toujours un brevet, mais souvent un brevet.
Donc là, vous venez de rendre public les premiers résultats de votre étude. Comment ça va se passer après pour la mise sur le marché ?
Alors, entre maintenant et la mise sur le marché, on a d'autres études cliniques. Alors, on est dans un secteur extrêmement réglementé. Hein, donc déjà, sur l'année 2022, comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre d'autres petites études. Il y en a une qui a été faite la semaine dernière. Les résultats vont être dévoilés au mois de juin. Avec une amélioration notable de la précision. Et puis, en 2023, on va avoir ce qu'on appelle les essais de validation et de pivot, qui sont deux essais normés. Et à partir du moment où on a les résultats des essais de pivot, on va pouvoir faire un dépôt de marquage CE en Europe, FDA aux États-Unis. Et quand on a ce sésame, on peut commencer à vendre. Une fois qu'on a vendu, qu'on commence à vendre, après on va pouvoir engager des discussions de remboursement avec les payeurs locaux. C'est-à-dire typiquement en France, le payeur sur ce type de dispositif, ça va plutôt être la Sécu. Plutôt les Sécu.
Vous pensez
Oui, c'est la Sécu qui rembourse.
D'accord.
Dans d'autres pays, ça va plutôt effectivement être les mutuelles. Aux États-Unis, c'est plutôt les mutuelles qui remboursent.
Ouais.
Voilà. Et puis dans d'autres endroits, ça va être direct to consumer. Parce qu'il n'y a pas de système de remboursement. Vous pensez par exemple au Moyen-Orient ou dans les pays de l'Est où les produits sont assez peu remboursés. Et c'est plutôt un produit qui peut se retrouver soit en ligne ou dans les pharmacies, mais où les gens l'achètent sans prescription et sans remboursement.
Vous allez commencer par l'Europe, du coup, pour la mise sur le marché ?
On va commencer sur un certain nombre de pays européens, puis un déploiement progressif, et puis assez rapidement d'aller aux US, parce que le marché américain, ça représente 50% du marché du diabète, en termes de chiffre d'affaires.
Ouais.
Enfin, pas le nombre de patients, mais les patients américains sont un peu plus riches que les patients dans les autres pays.
Oui, j'imagine qu'en Inde, où... ou en Chine, hélas. Donc, pour la mise sur le marché, vous parliez tout à l'heure du coup de ce qui allait se passer, hein, du calendrier donc 2022-2023. Vous avez rejoint un accélérateur de start-up e-santé, le plus grand d'Europe, qui s'appelle Future for Care. Pourquoi et qu'est-ce que ça va vous apporter ?
Alors, Future for Care, c'est une super initiative qui est portée par les quatre membres fondateurs que sont Sanofi, Orange, Capgemini et Generali. Donc, quelqu'un dans la santé, quelqu'un qui est dans la data, quelqu'un qui est dans le soft et quelqu'un qui est plutôt du côté payeur. Et on fait partie de la première promotion, donc on va rejoindre leurs locaux fermés. Ce que ça nous apporte, bon, à part... des superbes locaux.
Bon, ça, c'est les parce que là, vous êtes où pour l'instant ?
On est au Kremlin-Bicêtre. Et, des petits locaux. Voilà, on ne dépense pas d'argent. On dépense l'argent en R&D, pas dans nos locaux.
Ouais, c'est plus important.
C'est plus important. Mais les équipes sont très excitées de rejoindre ce superbe accélérateur. Mais au moins aussi important, c'est de baigner dans un écosystème santé. Donc, on va pouvoir... les gens ont les mêmes problématiques d'essais cliniques.
Vous allez vous challenger, en fait.
Exactement, s'aider, voilà. On va être aussi accompagné par les membres fondateurs et un écosystème qu'ils sont en train de construire autour. Typiquement, on a fait, pour un exemple, il y a quelques jours, on a eu un rendez-vous avec des gens... spécialisés dans les essais cliniques chez Sanofi, qui ont donné leur avis sur notre protocole. Comme eux, ils font des essais sur l'insuline tous les jours.
C'est les mieux placés pour savoir.
Ils connaissent tout le monde, tous les centres. Ils ont, voilà. Donc, même si nous, on a des gens qui sont expérimentés sur le sujet, on n'a pas le savoir-faire d'une société comme Sanofi.
Donc, un accompagnement sur mesure pour pouvoir progresser plus vite.
Exactement, c'est un accélérateur. Ils ont pris, ils ont choisi ce qu'on appelle des scale-up plutôt que des start-up. Donc, ouais. C'est des sociétés qui sont en phase d'accélération avec des problématiques donc bien particulières, pas forcément du seed, etc., mais plutôt de mise sur le marché, ouais, ou de développement commercial.
Oui, là où souvent les entreprises, peuvent échouer, se casser la figure. En termes de fabrication, où sont fabriquées ces montres ?
Alors, on a donc deux dispositifs, la montre et le patch. Donc la montre, c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre, donc c'est nous qui définissons les plans, etc. Mais on fait fabriquer la montre par un gros partenaire industriel, un ODM, qui est mondial, mais pour les usines de smartwatch sont en Asie. C'est des gens qui fabriquent des montres pour Apple, Fitbit, Huawei, Anko. Donc c'est important parce que c'est y a des tests compliqués de qualité à mettre en place, l'accès du sourcing de composants bien spécifiques. Pour le patch, par contre, on a décidé de monter notre propre usine. Donc on est en train de la monter. C'est une usine qui va pouvoir fabriquer plus. C'est une usine qui est basée en Europe.
En Europe, oui. Important pour vous de la baser en Europe.
C'est important de la baser en Europe pour des problèmes de. Pour des problèmes de propriété intellectuelle. Il y a des pays où on n'a pas très envie d'aller parce que la propriété intellectuelle pourrait fuir. Et pour être proche du site de fabrication, parce que ça sera notre usine. Enfin, on va démarrer avec cette usine-là. Probablement qu'à un moment, si le succès vient, on dupliquera et que cette usine restera notre usine, ce qu'on appelle NPI, New Product Introduction. Donc quand il y aura d'autres produits qui arriveront, on commencera par les fabriquer dans cette usine avant de les dupliquer dans d'autres.
D'accord. Donc, et l'ouverture de cette usine, ce serait pour... vous êtes en train de la monter là, ce serait prochainement ?
C'est déjà une usine qui nous sert de labo. Donc c'est une usine avec une salle blanche. Donc en fait, quand on monte des patchs avec de la chimie, etc., ça doit se faire dans un environnement très sécurisé. Donc vous voyez les gens qui sont dans l'usine, ils sont en tenue un peu type NBC là. C'est une sorte de grand robot. On dit ouh là là, ouais, c'est dangereux. C'est pas un labo P4, mais enfin c'est de ce type là. Donc c'est une salle. C'est assez impressionnant. Enfin moi je connaissais pas d'avant. Je connaissais les usines électroniques grand public où il y a des grandes lignes avec personne. Là, c'est une usine où on rentre, on se lave, comme s'il y avait des virus. C'est simplement en fait pour pas qu'il y ait de particules dans l'air qui viennent se déposer sur les patchs.
Ah oui, donc on est proche du P4. Du coup, mais là, parce que vous, pour l'instant, c'est des prototypes que vous montez dans cette usine que vous fabriquez. Ce sera une usine capable de produire des montres en grande quantité?
Oui, c'est une usine qui sera capable de produire plusieurs millions de patchs par mois.
Des patchs, oui, pardon.
Voilà. Et c'est important parce que quand on sera sur le marché, on estime que la montée en puissance industrielle devra être assez forte. Oui. On le voit à l'appétence des patients diabétiques qui viennent nous voir. Alors, soit sur des salons enthousiastes, quand est-ce que le produit sort, pourquoi il sort, pas demain, les gens ont du mal à comprendre, ce qui est très compréhensible, mais bon, ça c'est le temps de mise sur le marché est long. Et puis aussi quelques métriques, sur notre site, on a 20 000 personnes par mois qui viennent sur notre site, on fait zéro pub, hein. C'est 20 000 personnes qui viennent par mois, et qui tapent en fait, c'est des gens qui tapent « je veux une montre moniteur de glycémie en continu » et qui finissent sur notre site. Et il y en a 70 000 qui nous ont laissé leur email. Donc, c'est à peu près moitié-moitié Europe, Amérique du Nord.
Donc, il y a vraiment une demande, en fait.
Il y a vraiment une demande, oui.
Ouais, donc, à laquelle vous allez répondre. Pour terminer cette émission, alors là, vous avez parlé de ce qui va se passer. Vous allez déménager donc fin mai chez Future for Care. Les 36 collaborateurs, hein, vous êtes 36 en France, vont du coup être là-bas.
C'est cela. Alors après, pas tous les jours, puisqu'on fait un peu de télétravail aussi. Puis oui, on a des collaborateurs qui sont plutôt en distance en France, mais une bonne partie sera là, sera sur dans ce site qui est dans le 13e arrondissement, le long de la Seine.
Il y en a qui, du coup, font du télétravail 7 jours sur 7, que vous avez recruté dans d'autres villes?
Alors, déjà à l'étranger. Donc, on a deux collaborateurs aux US, un à Taïwan. En France, on a un certain nombre de collaborateurs qui ne sont pas parisiens, enfin, la région parisienne, et qui viennent une semaine par mois sur site. D'accord. On prend les talents là où ils sont. Et dans ce monde post-Covid, on a tous appris à travailler de cette façon-là. Donc, c'est quand même plus facile.
Oui, c'est plus facile. Hein. C'est vrai qu'en discutant avec de nombreux fondateurs de start-up, on s'aperçoit que les talents, il faut aller les chercher. Et que du coup, le télétravail, c'est la première des conditions pour dénicher les bons talents. C'est compliqué à dénicher en ce moment, les talents. En France, on en parle, on dit qu'il y a une pénurie de talents.
C'est plus compliqué qu'il y a 2-3 ans, ça c'est sûr. On a des besoins plus forts encore, ça c'est évident. Et puis, il y a des domaines où c'est plus ou moins compliqué. On est sur des domaines pas très simples. Ah oui. On est, par exemple, du data scientist, ça se trouve pas par hasard. Des gens en chimie spécialisés dans le vivant,
pas beaucoup. J'imagine que ça ne court pas les rues.
Et c'est aussi pour ça qu'on a recruté des gens aux États-Unis, parce que les sociétés spécialisées dans le monitoring de glycémie en continu, c'est pratiquement que des boîtes américaines. Donc on va chercher les gens qui ont eu des expériences dans ce type de boîte aussi.
Et en termes de recrutement, là, juste pour terminer, donc vous visez des recrutements encore cette année, l'année prochaine?
Alors en ce moment, on fait une petite pause, on a enlevé, on attend, on va relancer les recrutements massifs à partir de la fin d'année. On pense être à peu près une centaine fin 2023.
Très bien. Eh bien, merci infiniment, Milley, d'être venu nous présenter donc déjà PK Vitality et puis votre montre K-Watch Glucose qui va être une révolution pour les personnes atteintes du diabète. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.